Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose toutes les connaissances utiles à une vie bonne et heureuse. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, de vous aider à mieux vous connaître et surtout de vous faire du bien. Notre parti pris est de partager avec vous des savoirs ayant un impact positif sur l'homme et le vivant. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, nous accueillons l'autrice et la spécialiste des arts stratégiques chinois, Marie-Pierre Dillon-Zeger. Suite à l'apparition de son dernier livre, Debout, paru récemment chez Mama Édition, et que je qualifie volontiers de manuel du guerrier. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Amal.
Alors Marie-Pierre, Blooming You est très adepte de vos travaux et nous avons une relation suivie depuis la publication de vos livres La Voix du Feng Shui et Oser s'accomplir. Votre nouveau livre, Debout, la force de s'incarner, paru récemment chez Mama Édition, est un manuel pratique avec des techniques et des exercices pour mieux vivre et faire face aux épreuves de la vie. Le tout, évidemment, éclairé par la sagesse chinoise. Alors, votre expertise vous vaut aujourd'hui une résonance internationale. Votre pratique, pour ceux qui la découvrent aujourd'hui, est indépendante des convictions religieuses. Elle ne se substitue pas aux opinions ou convictions de vos patients ou lecteurs, car elle parle avant tout de connaissance de soi et non de croyance. Alors, au fil des histoires et des contes présentés dans cet ouvrage, vous célébrez les incroyables ressources à la disposition de chaque être humain pour s'accomplir et s'incarner pleinement. Alors, pour vous, nous incarner n'est pas réussir à faire ce que nos parents, nos professeurs et la société attendent de nous, mais plutôt d'entrer en cohérence avec l'être que nous sommes.
Absolument.
Alors, votre approche emploie toujours des techniques qui stimulent les forces internes et encouragent l'autonomie. De quelle force s'agit-il, Marie-Pierre, et quels sont selon vous, et pour reprendre vos termes, en fait, les termes que vous employez dans votre livre, le bon attirail pour l'aventure de la vie?
Super question, merci pour cette introduction. Je pense que le moment est venu de dire que mon objectif principal est que la personne puisse être à la fois en joie, debout, c'est-à-dire capable de prendre des décisions qui sont vraiment les siennes, quel que soit l'objectif, qu'il s'agisse d'aller acheter une baguette ou autre chose, mais aussi des décisions professionnelles. Donc l'autonomie est essentielle et les forces dont on parle, ce sont les forces de vie. Nous naissons tous avec un capital de vie quasiment incompressible à la naissance, qui comme pour un gland qui va tenter de devenir chêne, va se déployer avec plus ou moins de fluidité et de facilité selon les obstacles, les avis, les vents contraires que nous allons pouvoir rencontrer. Donc pour moi, la boîte à outils essentielle, ce sont les forces avec lesquelles nous naissons.
Alors dans votre livre, vous parlez de la puissance d'agir et notamment vous évoquez beaucoup Sun Tzu. L'art de la guerre. Il y a par exemple la page 66, vous dites « Laisser couler est une parade efficace quand la réponse est inutile et coûteuse en force. En revanche, lorsque l'éducation invite toujours à ne jamais faire de vagues, la blessure est simplement enterrée, le poison ingéré ronge alors l'intérieur à petit feu. » Alors moi, ces phrases ont fait résonner en moi les mots de Marc Aurèle. « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. » Alors Marie-Pierre, lorsqu'on est en voiture ou à bicyclette sur le chemin de la maison, on sait exactement dans quelle direction on est et comment naviguer, puisqu'on connaît le chemin. Mais dans la vie, les épreuves, quels sont les repères qui jalonnent notre chemin? Quels sont les repères sur lesquels on peut se fier?
Alors, je crois qu'il faut presque revenir à la posture de base. Quand nous arrivons dans cette vie-ci, nous sommes entourés de guides physiques. On arrive dans un certain pays, dans un certain moment, dans une certaine famille, dans une certaine culture, qui vont servir de tuteurs et qui, dans certains cas, vont s'imposer comme guides. Activant un système de formatage qui, de mon point de vue, va être plus ou moins en adéquation avec les forces que nous portons. Bon. Donc, la posture de base qui anime ma pratique est que le chemin n'est pas tracé. quand bien même on nous laisse croire que parce que nous venons d'ici, nous devons aller là, parce que nous devenons de là, nous devons rester là et pas aller à ici. Hein. Donc, dès lors que l'on commence à se dire avec intérêt, mais non pas comment rejoindre telle destination que j'ai déjà fixée d'avance, mais comment chaque jour je peux vivre du mieux possible ce que je suis, en m'appuyant sur qui je suis, le chemin devient souvent plus intéressant que la destination. Hein, moi, je vois beaucoup de frustration et de souffrance parce qu'une destination, qu'elle soit professionnelle, familiale, de couple, a été décidée par notre cerveau gauche, par nos habitudes, par notre ambition aussi, qui est tout à fait une force utile, mais qui tout d'un coup vont rencontrer des difficultés. Hein. Donc, tant que l'on voit la difficulté comme étant un obstacle à ce que nous voulons absolument faire, et d'ailleurs ça l'est souvent, nous allons rentrer en agitation et en perte de force pour maintenir le cap quoi qu'il arrive. Dans mes ouvrages, vous savez que j'utilise aussi souvent des métaphores maritimes.
Oui.
Hein. Je suis aussi beaucoup dans la nature, en randonnée, etc. Il y a toujours pour moi l'idée de où je veux arriver à l'issue d'une randonnée ou à l'issue d'une balade en mer. Mais ce que je sais, c'est que nous n'arrivons pas systématiquement là où nous avons prévu d'arriver. Et dans certains cas, ce n'est pas simplement parce qu'il y a eu un obstacle, c'est parce qu'il y a eu un autre chemin qui s'est présenté, un autre courant, que la journée s'avère être plus ensoleillée que prévu et qu'on va aller plus loin ou ailleurs que ce qui avait été prévu initialement. Donc, la référence à la pensée chinoise et à l'énergétique chinoise, elle est la suivante. Plus je vais économiser mes forces, et économiser mes forces, ce n'est pas d'être paresseux, hein. Plus je vais m'atteler à ce qui n'est pas trop grand ni trop petit pour moi. Plus je vais donc économiser des forces, premier point. Le deuxième moyen d'économiser des forces, c'est de ne pas s'acharner ou se fatiguer à changer ce qui n'est pas possible de changer, il faut l'accepter à un moment donné, ou ce qui n'est pas encore possible de changer. Donc par exemple, si je suis dans une activité professionnelle qui m'assomme, qui me fatigue, qui me blesse, ou simplement dont j'ai fait le tour alors que le moment arrive de changer, j'ai le choix de m'agiter et de m'énerver, de ne pas avoir encore fait ce qu'il fallait ou rencontré les circonstances qui me permettent de bouger, ça prend de la force. Ou je me mets en situation de naviguer à vue, on serait en bateau, hein, de naviguer à vue le temps que la côte me propose, si on est en bateau, une berge ou un port plus accessible. Hein. Donc là, il y a une question centrale qui est d'accepter, qui n'est pas se résigner. It's not giving up en anglais. Hein. C'est d'accepter la situation telle qu'elle est, en s'agitant le moins possible, parce que plus je m'agite, moins j'accède aux commandes, aux manettes, qui sont pour une personne les qualités qu'on a peut-être déjà, les outils dont on se souvient, des mémoires, des alliés. Hein. Ce n'est, en situation de crise, ce n'est pas en s'agitant que la solution arrive, c'est en se posant. Donc, ma réponse est longue, comme parfois, hein, à la question, mais mon objectif, il est l'autonomie de la personne, qui n'est pas l'indépendance à tout prix, qui n'est pas la solitude au bout du compte. C'est l'autonomie en conscience, ça se fait le long des années de vie et en rencontrant parfois des épreuves, c'est l'autonomie et la conscience de ce que nous avons envie et intérêt de faire dans cette vie-ci.
Quelle est la posture de l'autonomie? Une personne autonome, comment on la reconnaît?
Une personne autonome, elle est droite, elle est debout. Hein. Elle est ni, comment dire, elle n'a pas besoin de critiquer. Elle ne s'occupe pas de ce qui n'est pas son chemin, ce qui ne la dispense pas d'empathie et d'attention à l'extérieur. Mais c'est une personne qui assume le chemin, qui de temps en temps va bien se rendre compte qu'il y a des cailloux dans la chaussure ou il y a des cailloux dans le chemin, qu'elle enlève le caillou, elle va le jeter à personne quand elle l'enlève du chemin. Hein. Et je fais souvent référence à la joie qui émane de quelqu'un qui est à sa place et en chemin, mais c'est aussi une qualité vibratoire où la personne occupe une place, elle rayonne, elle rayonne. Hein. Mais elle ne rayonne pas pour rayonner. Elle ne rayonne pas par son maquillage. Elle ne rayonne pas par sa carrure d'épaule. Elle ne rayonne pas par ses muscles. Elle rayonne parce qu'elle est.
Alors, vous faites aussi référence à la patience. Vous dites, s'il me fallait nommer la résistance la plus courante dans ma pratique d'accompagnement, je dirais sans hésiter la difficulté à patienter.
Absolument. Ça, c'est très occidental.
Alors, comment se détacher du temps qui passe et de ses contraintes?
Alors, bien évidemment, je propose un certain nombre d'exercices qui alimentent la patience, hein, dans mes ouvrages et puis dans mes consultations. Mais on ne peut comprendre ou entendre et ensuite accepter. Parce qu'entendre, comprendre, c'est une étape. Entendre, c'en est une autre. Accepter, c'est encore autre chose. L'intérêt de la patience, que si l'on sort d'une posture où l'on considère que nos échecs et nos succès sont essentiellement dérivés de nos faiblesses et de nos forces. Hein? À partir du moment où je me rends compte que une année comme 2021, par exemple, hein, l'année du bœuf de métal, est une année qui vibre, qui résonne un peu lourdement. C'est une année qui va beaucoup moins vite dans l'énergie qu'elle propose. Pour moi, je parle de vent temporel que 2020. Donc à partir du moment où je comprends que chaque année a une certaine qualité énergétique et que ceci peut influencer défavorablement si je ne suis pas prévenue, mais très favorablement si je suis prévenue mon action, eh bien, je gagne potentiellement en patience. Parce que je sors d'une idée que si je ne passe pas ce 25e coup de fil ce soir, le monde va me tomber dessus demain. Parce que si j'entends que demain, même à la limite sans que je connaisse la qualité du jour de demain, que le temps est potentiellement un allié, bon ben je vais avancer. Mais pour nous, nous sommes encore dans une culture où le succès et l'absence de succès est essentiellement lié à la force, à la volonté que je déploie. À la chinoise, en tout cas traditionnellement, c'est pas ça. Il faut rencontrer le bonjour, hein, et puis être plutôt au bon endroit. Donc il y a la question de suis-je aujourd'hui dans un environnement qui me permet de vibrer? La réponse, la personne le sait, hein, même sans chinoiserie, oui ou non. Est-ce que je fonctionne, est-ce que ma pleine énergie, c'est le matin ou le soir? À l'heure actuelle, on est repassé un peu en télétravail, pas pour tout le monde, hein, mais nous avons cette dernière année eu l'occasion de tester, pour certains, pas pour tout le monde, davantage, les moments, les lieux, les personnes qui nous permettent d'être, ce que moi j'invite, hein, en vibration maximale. Et vous avez vu, je parlais d'un corollaire entre vibration maximale, posture d'autonomie par rapport à tout ce qu'on attend de moi. Mais il y a ce qu'on attend de moi, et puis il y a ce que j'attends de moi, et il y a ce que je suis éventuellement venu refaire ou faire dans cette vie-ci. Notre culture à l'heure actuelle, même si ça change un peu, n'a pas de place pour cette dimension-là. Hein? Qu'est-ce que mon âme dit? Est-ce que mon livre, mon dernier livre en tout cas, cherche à donner la parole à l'âme avec laquelle nous sommes venus. Il est temps qu'on l'écoute, il est temps qu'on les écoute.
Vous dites aussi, j'ai souvent vu des personnes s'agiter pour un danger imaginé, perte d'emploi improbable, incompétence exagérée, risque inexistant et ignorer de réels dangers, burn-out, symptômes cardiaques, etc. etc. Que peut-on mettre en place quand on monte ces angoisses qui sont là, qui font partie de l'être humain, en fait, que vous expliquez très bien à travers d'exemples de patients.
C'est toujours pareil, hein, c'est de reconnaître l'état de déséquilibre dans lequel nous sommes déjà ou pas avec nous-mêmes. Comment est-ce qu'on reconnaît cet état de déséquilibre? Comment dormez-vous? Comment digérez-vous? Quelle est votre autonomie réelle physique? Est-ce que vous êtes capable de marcher de chez vous au métro ou de chez vous au parc le plus loin? Ou est-ce que vous avez toujours besoin de la voiture? Ou est-ce que vous ne... Donc, la question là, elle est d'oser s'entendre, d'entendre cette voix que nous avons tous. N'y va pas, t'as déjà mal au dos. Ou si t'y retournes dans ce type de réunion, il est possible qu'on ne te donnera encore pas la parole. Alors, on va me dire, mais on ne peut pas ne pas aller à la réunion. Sauf que de conscientiser l'état dans lequel nous sommes quand nous entrons dans la dite réunion et l'état dans lequel nous sommes quand nous sortons de la dite réunion et l'état dans lequel nous sommes le week-end qui suit les activités professionnelles de la semaine permet non pas d'inverser la vapeur, mais de prendre une prise de pouls, hein, de prendre la température de notre état vibratoire, parce que les burn-out, toutes les personnes qui les vivent, qui les ont vécues, savent à quel peuvent d'une certaine manière remonter dans le temps et identifier les signes avant-coureurs qui n'ont pas été écoutées. Alors, vous pourriez me dire, mais elle ne pouvait pas les écouter parce que si elle les écoutait, professionnellement, ça aurait fait une crise. Mais est-ce que le burn-out n'est pas une crise majeure qui, quand il arrive, n'est plus simplement une crise professionnelle, c'est une crise familiale, c'est une crise personnelle, c'est une crise conjugale, c'est une crise sociale, hein? Donc, le reconnaître nos états de déséquilibre, ne pas paniquer, ne pas s'agiter, et quand ce sera possible, il y a toujours un moment où ce que j'appelle, moi, c'est des changements d'aiguillage, où une décision pourra être prise qui nous écarte, ne serait-ce peut-être que de 3 mm de la problématique. Donc, par exemple, la réunion du lundi qui me rend malade tous les lundis après-midi ou qui déjà me pollue mon dimanche. Mettons qu'on ne peut pas l'éviter. Bon, ben déjà, de s'asseoir à un endroit différent dans la dite réunion, de manière, si vous arrivez à aller en avance, avoir une position peut-être plus protégée ou plus dominante dans la dite salle de réunion, etc. Ce que je suis en train de dire, c'est que contrairement à ce que nous croyons, il y a toujours des ajustements qui sont possibles. On ne passe pas d'une situation très difficile à une situation rayonnante du jour au lendemain. C'est un chemin, et ce chemin, il est fait de petits ajustements. Et ça implique parfois... Je pense à quelqu'un avec qui j'échangeais, ne serait-ce que hier. Hein, ça implique parfois de devoir mettre un terme à notre capacité de tolérer des lieux, des personnes, des activités qui, au bout du compte, nous rongent. Et là, il faut du courage. Mais pour moi, le vrai courage, il est de défendre ses forces plutôt que de se caler dans un moule dont on sait à terme qu'il va nous manger ou nous mettre en burn-out.
Donc défendre ses forces quand on est par exemple contraint de travailler par ailleurs dans une entreprise effectivement dans laquelle on ne se sent pas bien, c'est quoi ? C'est peut-être faire du sport, de la peinture, enfin...
C'est de commencer, c'est comme une peau de chagrin, mm-hmm. Hein, surtout si on est très très investi dans la dite entreprise. C'est de de voir comment réduire un petit peu notre implication sur ces aspects-là qui nous brûlent, et après avoir identifié les activités qui nous font du bien, hein, de poser un acte ou deux, pas forcément longtemps chaque jour, mais qui, eux, vont faire tache d'huile et qui vont contrebalancer l'inconfort. Hein? Et quand on demande à la personne, mais où est-ce que vous voudrez vraiment être? En général, la personne le sait, sauf qu'elle n'y est pas. Et la phrase d'après, c'est, oui, mais ça, j'y serai jamais. Je pourrai jamais repartir en province. Ah, mais moi, je viens d'un pays de montagne. Les montagnes me manquent, mais professionnellement, etc. Il y a toujours des excuses, sauf que si vous savez que vous êtes bien dans un lieu de montagne, à terme, c'est déjà, enfin, à l'heure actuelle, c'est déjà clair que sur le long terme, il faudra quand même arriver à mettre le gouvernail du côté de la montagne. Donc en mer, en clair, le message, la personne est ensablée. Bon, la personne est ensablée, et bon, qu'est-ce qu'on fait? On peut attendre, si on est vraiment ensablé dans un coin où il n'y a plus d'eau depuis, parce que ça s'est asséché, réchauffement climatique, je taquine, hein. Donc à un moment donné, on peut être arrivé, bon, ben, je suis obligé d'abandonner ma barque. Je pars à pied. Ou alors, qu'est-ce que je fais? J'attends et je meurs sur place pendant 15 ans que quelqu'un vienne m'apporter un baquet d'eau, c'est pas possible. Donc ça, c'est la pire des situations. C'est de, à un moment donné, moi, je vois un certain nombre de personnes que je suis depuis des années maintenant, à un moment donné, ils ont claqué la porte. Mais mon propos n'est justement pas d'aller vers des extrêmes, c'est de prévenir des extrêmes pour que les changements de cap puissent avoir lieu avant qu'on soit ensablé. Mais quand on est ensablé, bon, ben déjà, on attend la marée. Patience.
Mais est-ce que l'extrême n'est pas parfois inéluctable? En l'occurrence, quand vous
Absolument.
dites, voilà.
Absolument. Et alors là, ok, donc je démissionne, mais qu'est-ce que va dire mon conjoint? Ben, qu'est-ce que va dire votre conjoint? Votre conjoint, vous avez à lui expliquer que vous avez à sauver votre peau. Et si le conjoint ne peut pas entendre, il faut peut-être aussi changer de conjoint. Ça, c'est insupportable ce que je viens de dire, ou je vais trop loin. Mais il y a une illusion qui est de pouvoir exceller, même au niveau de santé et professionnellement, dans un environnement qui est à vent contraire. Cette illusion-là, elle est occidentale. On croit qu'on va pouvoir. Ah, mais je vais quand même encore essayer. Comme souvent aussi dans des relations où on sait qu'on se fait malmener dans la relation et qu'à un moment donné, quelqu'un de l'extérieur peut voir l'inéluctable de que ça ne va pas le faire, pour dire vulgairement. Il y a souvent autre chose, c'est il y a une crainte du conflit. Parce qu'à partir du moment où je dis non, moi, ça m'est arrivé quand j'étais petite. Hein, je faisais enfin, j'ai eu une opération du foie en tant que jeune adulte, mais pendant toute ma jeunesse, j'étais allergique au vinaigre. Bon, et même dans ma propre famille, on me servait toujours des vinaigrettes avec du vinaigre, alors qu'on peut le remplacer avec du citron. Donc, ça a été longtemps une frustration. Ça a été longtemps une lutte. Et je me voyais le moment, mais on ne m'entend pas, on ne m'écoute pas, j'existe pas. Après, on glisse, hein, jusqu'à ce que j'arrive à dire non. Non, j'en veux pas de cette vinaigrette. Je n'en veux pas. Je n'en mange pas. Non, je finis pas mon assiette. Hein, donc, alors après, l'enfant qui n'écoute pas, etc. Mais je veux dire, mes symptômes n'étaient pas vus. Ils étaient visibles, hein, donc, à un moment donné, effectivement, on peut être arrivé à du non. Alors, après coup, quand il y a eu la compréhension de la problématique que j'avais, bon, c'était clair, mais donc, il faut de la force. Le conflit a, on va dire, a mauvaise presse en Occident. Moi, je ne suis pas pour le conflit, pour qu'on se batte a priori. Je suis pour l'art de la guerre, il est d'éviter le conflit. Hein. Mais dans un certain nombre de cas, d'être prêt pour le conflit va empêcher la guerre. La manière dont la personne va pouvoir dire non, je ne prendrai pas l'avion aujourd'hui pour aller faire telle réunion que je peux faire chez moi, par exemple au début ou même avant le confinement. Il y a un travail, je parle beaucoup de posture, hein, le conflit, on le fantasme. On va dire, mais dans un certain nombre de cas, il est réel. Mais je parle dans mon dernier livre de l'intérêt de réapprendre à nous armer. Pas avec des armes physiques, c'est en travaillant notre posture, en travaillant notre manière de présenter nos cas. Et donc le conflit, et par moments, le conflit est nécessaire. Et ce qui est très intéressant dans la pensée chinoise, enfin la manière dont je le pose ou je le transmets en tout cas, c'est que d'accéder, quelqu'un qui s'est toujours fait marcher sur les pieds, et la personne accepte parce que elle a peur d'un conflit qu'elle a pu éventuellement connaître quand elle était petite ou petit et qui mérite d'être accompagnée par d'autres thérapies, cette peur-là. Mais ce qui se passe très, très, très souvent, c'est que le jour où la personne, finalement, va dire non, c'est pas le début d'un conflit sans fin. C'est, elle passe un seuil. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que l'univers comprend. Alors moi, je me dis, j'ai toujours cette image que l'univers se réjouit, se frotte les mains. Là, je me frotte les mains en disant, ça y est, elle ou il a compris la force qu'il avait dans les bottes. Donc maintenant, ben on passe à une autre phase. Et ce qui est très intéressant, c'est ces retours que j'ai de personnes qui disent, bon, ben finalement, soit un, ben c'est tout à fait bien passé, il n'y a pas eu conflit, ou ça a secoué un peu, mais la réponse que j'ai eue me permet vraiment de comprendre que je n'ai plus rien à faire avec ces gens-là. Ou trois, il y a eu conflit, mais depuis ce jour-là, on parle autrement dans les réunions, par exemple. Hein? Donc nous avons cette idée que d'accéder au conflit va nous faire passer dans un mode où on va être dans le conflit ad aeternam. Or, le conflit, c'est juste un sas, c'est une étape qui, dans cet exemple-là, révèle des forces qui nous sont demandées d'utiliser pour pouvoir tracer notre voie. Donc, bon, moi, je n'ai pas d'attitude négative quant à la colère qui serait défavorable, au conflit qui serait... Dans certains cas, il y a un coup de colère, va faire avancer. Dès lors qu'on ne s'installe pas dans la colère. Dès lors que le conflit n'est pas un mode d'être. Autrement, on l'évite, bien sûr.
Oui, d'ailleurs, pour vous, les émotions ont une raison d'être.
Et oui, les émotions disent qu'on est vivant. Je veux dire, quelqu'un qui ne pleure pas. Alors, on commence à voir à l'heure actuelle des dirigeants, des leaders, des dirigeants et dirigeantes. Mais souvent, c'était plutôt les hommes qui restaient totalement stoïques. Hein, qui allait s'excuser publiquement, éventuellement, mais qui ne nous montrait jamais une larme, ou qui n'osait pas nous dire que, je pense à, toujours pareil, il y a des cas réels, bon là c'est quand même aussi beaucoup aux US, qui vont à leur cours de yoga en fin de journée. Bon, ça ne se disait pas, mais en fait, parce que soi-disant c'est une part de vulnérabilité, mais en fait ce qui fait qu'une entreprise va être pleinement vivante, c'est que l'ensemble des personnes qui sont dedans sont pleinement vivants. On ne peut pas être pleinement vivant si on n'ose pas ouvrir la parole en réunion. On ne peut pas être pleinement vivant si la personne qui incarne, le dirigeant ou la dirigeante, incarne une force en béton armé. Personne n'est en béton armé. Bon, enfin, je m'agite pas. Ce que je veux dire, c'est que là, moi, je pense qu'on a parce qu'on a été confronté à notre vulnérabilité, à plein de choses qu'on ne pouvait plus faire. Je pense que dans le chaos encore actuel, et dans où on avance qu'à un cas, et on sort pas, confiné, pas confiné, etc., on peut en rire, mais en même temps, pour moi, c'est comme des galets sur une plage qui, se frottant les uns les autres, vont nous permettre d'être autrement. Hein, je disais tout à l'heure que je vois, moi, dans des informations, les grandes chaînes américaines, on a vu toute l'année dernière les reporters, certains ou certaines, dans leur cuisine. Les cuisines absolument moches et en même temps tellement vivantes, si on se cale sur ce qu'autrefois on imaginait. Hein, et on s'en fout que la cuisine soit comme ci ou comme ça. Ce qui compte, c'est que vraisemblablement, on a envie d'y cuisiner. Hein. Donc là, il y a une espèce de chaos. Il y a toujours pas mal de peur, mais pour moi, le chaos est utile à la redistribution des cartes. Et donc, on est dans une période où on sait pas, on sait qu'on aura plus ce qu'on avait, on ne sait pas encore ce qu'on va avoir, on patauge. Mais quand on patauge, quand le chemin n'est pas tracé, mais c'est génial, l'humain, il peut respirer.
Alors, c'est une belle transition, puisque dans votre pratique, enfin, votre pratique est très influencée par Jung, que vous aimez, vous citez fréquemment. Et en l'occurrence, pour parler de notre rapport à l'incertitude, ou notre peur de l'inconnu, notre besoin de savoir, vous le citez, vous dites que qu'être, enfin, vous citez Jung qui dit qu'être dans une situation où il n'y a pas d'issue, ou d'être dans un conflit marque typiquement le début du processus d'individuation. La personne doit réaliser que quoi qu'elle fasse ou décide, la solution n'ira pas. Ceci a pour objectif de démolir l'ego, qui croit avoir la responsabilité de la décision. Dans le langage religieux, la situation sans issue est là pour nous faire accepter l'intervention divine, l'aide du ciel. Juste après cette exposition, vous donnez un exercice qui, moi, a attiré mon attention. C'est l'exercice de la pierre. Quel est le lien avec...
Déjà, vous l'avez déjà fait? Vous l'avez fait?
Je ne l'ai pas encore fait, mais je l'ai noté, ça m'a parlé, je l'ai imaginé, je me suis vue tenir cette pierre, je l'ai imaginé.
Et il faudra la trouver, hein. Il
Ouais.
faudra la toucher et puis faire l'exercice. Alors, déjà, la totalité des exercices qui sont dans mes ouvrages ne sont pas tirés de bouquins que j'ai pu lire ou de pratiques. Il y en a juste un, l'exercice du nom qui m'avait été donné par un médecin quand j'étais toute jeune. Donc, ils sont tous tirés de situations rencontrés dans ma pratique et au départ issus d'un sur-mesure par rapport à une problématique qui était demandée. Ce que j'ai cherché à faire, c'est de systématiser des exercices qui peuvent être utiles à des problématiques en résonance pour les lecteurs. Hein. Donc l'exercice de la pierre, c'est intéressant que ce soit qui vous est, enfin qu'il a été mis en exergue parce que il est comme l'exercice du mur vide. Il n'est pas facile. Je suggère de trouver une pierre avec une certaine dimension, enfin bon, pas un petit caillou de rien du tout, pas du gravier, hein, et de développer une relation avec la dite pierre, ce qui est absolument difficile, en particulier si on fonctionne avec le cerveau gauche, parce que d'abord une pierre, elle ne va pas me répondre, parler à une pierre, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. On est un petit peu comme ces praticiens d'arts martiaux. Qui propose une phrase incompréhensible à un étudiant qui va la mâcher pendant 15 ans jusqu'à un jour comprendre quelque chose qui n'est pas forcément la signification de Bon, donc la pierre nous confronte à l'impossible dissible, à l'indicible, et nous force à déployer des qualités que nous avons pour communiquer autrement. Et donc, elle force, c'est un défi, mais qui force une mise à disposition de notre être dans toutes ses capacités de connexion par le biais du corps. Parce que là, le cerveau, il ne va pas servir à grand-chose.
Oui,
Hein?
c'est ce que vous dites quand
Ouais.
vous citez Jung.
Voilà, justement. Hein? Donc,
Quand on est à
l'ego.
terre.
Parce que, oui, ce que je cherche à faire avec l'exercice de la pierre, c'est une prise à la terre. Je vous branche à la terre. On fait redescendre les pieds qui gambergent dans la tête. On les met à la terre. Et on reconnaît, souvent à terme, on se met à voir, déjà, puisqu'on ne peut pas parler, donc il faut utiliser autre chose. On peut la sentir, on peut la toucher, on peut la voir. Et moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que pour moi, il n'y a pas finalement de hiérarchie entre les humains qui seraient plus importants que les animaux, qui seraient plus importants que les arbres, qui seraient plus importants que les cailloux. Pour moi, je veux dire, je suis émue. Nous avons une chance extraordinaire d'être encore en vie à un moment donné où il reste plein de choses qui fonctionne encore de la nature dans cette planète. Hein. Donc, c'est pour nous ramener à la conscience de ce que nous ne sommes que comme une pierre, hein. Un rien du tout sur une terre, hein, sur notre planète. Et ce rien du tout, il peut beaucoup de choses. Une pierre, elle peut tenir une porte. Une pierre, mise avec d'autres pierres, elle nous fait un mur. Une pierre, elle est patiente, la pierre. Le nombre de cailloux, quand je marche, le nombre de cailloux à qui on donne des coups de pied. C'est rigolo de voir un caillou qui s'en va. Ce coup de pied, pourquoi on le fait? Si vous êtes la pierre. Alors, on n'est jamais la pierre. Bref. cet exercice est, moi je pense, intrigant et utile. Et ceux et celles, les quelques-uns dans ma pratique qui l'ont fait, sont tous revenus vers moi avec une forme de gratitude. Pas vers moi, vers l'objet qui n'est pas manufactured, qui n'est pas fabriqué, qui n'a pas été acheté, qui n'a pas vraiment de valeur. C'est comme si ça permet aussi un contact, une redéfinition de ce qu'est vraiment la valeur.
Alors moi, j'ai un gros galet, et à chaque fois, alors que j'utilise pour mes livres sur mon bureau, un gros galet qui m'a été offert par mes enfants. Donc pour moi, c'est ma pierre.
Donc il y est déjà.
Elle y est déjà. Je l'utilise pour les livres. J'adore lire et voilà, des fois je suis sur l'écran, je prends des notes. Bon, je mets des petits, des petits post-it. Puis je prends des notes et puis la page, en fait, c'est difficile d'avoir un livre bien ouvert. Donc des fois vous écrivez, donc faut garder la page. Donc je mets ma pierre. Voilà. Mais l'exercice de la pierre, on prend la pierre, on ferme les yeux. Et vous pourriez nous rappeler l'exercice pour ceux qui nous écoutent.
Donc l'exercice, c'est de trouver une pierre. Donc l'idéal, là, comme cette pierre, vous avez déjà une relation avec elle. Donc elle ne compte pas.
D'accord, mais c'est intéressant.
Donc c'est l'idée d'aller, vous sortez, vous allez à la rencontre d'une pierre qui vous attend.
D'accord.
Cette pierre, une fois que, alors laquelle on prend, etc., je ne sais pas, vous saurez. Et puis on peut en prendre une qui n'est peut-être pas celle avec laquelle vous cheminerez longtemps, mais qui vous introduira à une autre pierre un autre jour. Bon. Vous la ramenez. Si elle n'est pas très propre, on peut la nettoyer sous l'eau. Et puis ensuite, tous les jours, moi j'aime bien les rituels, tous les jours à la même heure. Alors, si je voulais être pas sympa, je dirais au moins 5 minutes. Soyons sympas, 1 minute 30. Vous la prenez dans vos mains et l'idée, c'est d'être avec elle. D'être avec elle. 1 minute et demie, tous les jours, pendant longtemps. Moi, j'ai l'impression d'avoir la pierre dans les mains, j'ai les mains chaudes là.
Bien sûr.
Donc, ça me met en joie.
Donc,
sur le long, au début, il ne va se passer rien, peut-être. Enfin, il se passera déjà quelque chose, mais cette pierre qui est à une matière, à une résonance, à une texture. Il y a tellement de pierres, tous ceux dans l'audience qui connaissent les minéraux, c'est infini, ce sont des galaxies, tous les minéraux qu'on a sur Terre. Il va se passer quelque chose, ne cherchez pas trop à comprendre, laissez-vous guider, votre guide c'est la pierre. Donc, au fur et à mesure des choses, finalement c'est aussi pour vous laisser guider par une énergie que nous ne considérons pas d'habitude. On va se laisser guider par un gourou, on va se laisser guider par un... Oui, ou plus.
Ou plus, parce que, en fait, moi, quand j'ai vu cet exercice, je me suis replongée enfant, j'ai vu mes enfants, et je me suis, moi, vue enfant. J'adorais les pierres. Mes enfants aiment les pierres. Quand vous voyez les enfants...
Oui. Et puis, c'est passé où, ça, alors?
À Dieppe, les Galets, et voilà. Je me suis revue petite à Dieppe... Je suis d'origine de la Picardie.
Et du coup, il y a de la joie à ce moment-là?
Il y a de la joie.
Il y a de l'insouciance. Cette joie-là, Amal, elle est en vous. Vous vous l'intraballez depuis des années, depuis bien avant que vos enfants soient nés. Ce qui vient de se passer là, elle est en vous. Donc moi, ce que je cherche à faire avec ces exercices, c'est de reconnecter la personne avec une vibration qu'elle porte. Et certaines personnes vont lire la page, ne vont pas voir l'exercice de la pierre, vont se connecter à un autre exercice. Oui. Cette pierre, il est important que nous reconnaissions chacun par le biais, pour le moment, d'objets simples, des vibrations que nous portons, parce qu'au bout du compte, ce dont il s'agit, c'est d'être vivant. Et il y a beaucoup de personnes vivantes qui sont mortes.
Ouais.
Et c'est pas un destin d'arriver dans cette vie-ci pour être mort vivant. Non, c'est une phase de votre vie. Il y a une pelure, je parle du conte de peau d'âne. Il y a une peau à enlever, il y a des connexions à retrouver. Et mon propos, encore une fois étayée par la pratique, parce que c'est possible.
Combien d'années de pratique, Marie-Pierre?
J'ai officiellement, je m'étais installée en profession libérale sur des sujets que personne ne connaissait en 99 à Paris. Ma pratique précédait ça, mais elle était faite avant ça. C'était, comment dire, sous le manteau, sans rien dire à personne, parce que peu comprenaient ce que je faisais. Hein. Et c'est intéressant parce que mes premiers clients sont arrivés par le biais de la communauté chinoise. Pour laquelle, traditionnellement quand même, l'obstacle ou la difficulté recèle des clés de notre chemin.
Vous interrogiez effectivement tout à l'heure notre rapport à la mort, en fait, même mort-vivant.
Ouais,
donc
ouais,
pour moi, c'est
ouais.
Une magnifique transition sur le rapport, parce que vous interrogez notre rapport à la mort dans le livre, hein, et vous proposez aussi super, enfin en tout cas un exercice très inattendu, moi je l'ai fait pour le coup et effectivement j'ai trouvé ça utile, intéressant. Intéressant. Alors j'avais pas le sentiment d'avoir un rapport à la mort
Distant.
Distant, mais j'ai trouvé ça intéressant. Oui, vous nous invitez à rêver ou imaginer notre mort
Mais oui.
Pour ajuster ce qui doit l'être et stopper les tourments par rapport à
Mais
la
oui.
mort. Alors pour vous, il est essentiel et vital de choisir non pas sa mort, mais les conditions de notre passage vers la suite. Vers la suite, c'est quoi?
Alors la suite, c'est ce qu'il y a après et qu'on ne sait pas, officiellement. Hein? Donc je cite, moi je n'ai pas de, je ne cherche pas à convaincre, je n'ai pas, on va dire, de stock in the game quant à telle religion ou telle autre, mais il y a une ouverture par encore une fois, enfin, on ne sait pas. Hein? Et premièrement, je pense qu'on passe beaucoup, beaucoup de notre vie à s'imaginer par défaut. On va pas l'affirmer comme ça, puisqu'on sait qu'on va tous mourir. Mais on passe beaucoup de temps de notre vie à fonctionner comme si nous ne mourions jamais.
Oui.
Bon, donc du coup, ça évacue la question de la fin de la vie dans des hospices, ce qu'on appelait autrefois des hospices, dans des lieux hors champ, hein, qui nous mettent en... qui préparent, et ça c'est sournois, mais ça se met en place au fil d'une vie, une surprise qui pourrait être évitée quand tout d'un coup on a des signes, ah mais tiens, t'es mortel. T'es mortel. Donc, quand ces signes-là arrivent, on peut encore les ignorer, mais surtout, on va être surpris. On va être surpris. Et aussi surpris par la mort de nos proches. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'avoir une part active. Y compris sur des choses très simples. Par exemple, demandez-vous, mais si un jour il y avait une cérémonie pour votre décès, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion, est-ce que vous avez envie d'une certaine couleur? Est-ce que vous avez envie, vous avez peut-être un mot à dire sur la couleur des fleurs. Il n'y a pas que les pompes funèbres qui ont à décider, ou la cousine, ou le parent. Quelle est la musique avec laquelle vous aimeriez partir? On va dire, mais non, je ne veux pas partir. Non, mais vous allez partir. Donc, quelle serait la musique? Trouver le son, la couleur, le lieu, la lumière que vous pourriez capter dès maintenant et voyez ce qu'il est possible de faire. Alors, on va dire, mais du coup, c'est morbide. Mais de penser à la mort n'est pas morbide. Pour moi, c'est extrêmement vivant.
D'ailleurs, il y a des cultures en Afrique
Mais
pour qui
évidemment.
la mort est une. Enfin, est une. On célèbre effectivement la personne qui est partie.
Mais oui, ou aussi au Mexique, enfin, il y a des cultures même qui déterrent les personnes. Et dans la culture chinoise, les absents sont toujours présents, ils sont présents autrement. Donc on va rentrer en collaboration avec eux sans avoir cette peur qui, pour moi, est vraiment très, très occidentale. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais on a peur d'aller vers ce qu'on ne connaît pas, on a peur de déranger les esprits, on a peur dans des énergies très défavorables. Mais en fait, ce sont nos peurs de quelque chose que nous ne connaissons pas qui finissent par diaboliser ce qui est juste un état que, effectivement, personnellement, je vois comme un passage.
Est-ce que
Hein?
vous pensez qu'on a plus peur de notre propre mort que de celle de nos proches ou l'inverse. Comment vous évaluez notre rapport à la mort aujourd'hui? Et d'ailleurs, compte tenu en plus des événements auxquels on fait face aujourd'hui, la Covid par exemple,
Eh ben
qui
le,
nous
le,
interroge.
le, la Covid a eu le mérite, et sans, vraiment le mérite, de nous rappeler que nous sommes mortels, de nous rappeler que le temps est compté. Et si le temps est compté, on l'avait oublié, chaque minute compte. Donc, quel intérêt ai-je de vraiment continuer à me projeter 10 ans de plus dans un lieu qui me plaît pas? Si le temps est compté, c'est comme, on pourrait presque dire, c'est comme si je me fais avoir. Hein? Et donc, entre sa mort propre et celle de ses proches, moi, enfin, si je voudrais même éventuellement faire des statistiques et que j'ai plus de temps pour répondre, mais en termes de consultation, je vois plus de personnes qui sont inquiètes du départ de leurs proches ou agitées, enfin, que d'une conscience de leur propre mortalité. On aurait davantage conscience de notre mortalité, il y aurait moins de burn-out. Dit comme ça.
Bien
Pourquoi?
sûr,
Parce
bien sûr.
qu'on serait plus en alerte plutôt du fait que ça va pas le faire. Hein? Et donc, la mort, moi je ne veux pas idéaliser la mort, je veux juste dire, redonner à la personne un droit de regard sur une issue qui pour moi, si j'avais un mot à dire sur ma propre mort, c'est qu'elle soit joyeuse. Après, comment réfléchir, comment est-ce que les conditions de la mort soient joyeuses? Et bien, par exemple, c'est pas d'être tout seul dans un lit quelque part. Et bien, avec la Covid, on est... Bon, bref, nous avons un mot à dire. Là, on s'est fait avoir, on s'est retrouvé avec une perte de dire, de droit à dire, avec des proches, hein, dans ma famille aussi, des proches qui sont morts hors champ, derrière des vitres, à des milliers de kilomètres, et même l'enterrement s'est fait en ligne. C'est inimaginable. Bon. Alors ça, on ne peut pas revenir sur ce qui s'est passé, mais il est temps de... Moi, je pense que c'est utile de se... De, par exemple, si vous habitez à New York, okay, mais vous venez du fin fond de la Louisiane, et que vous voulez reposer auprès de vos aïeux, qui étaient en partie français, et bien, et que c'est... Hein, il y a un moment donné, il va quand même falloir se rapprocher de cette terre. Pas simplement en écrivant quelque part que son corps doit être rapatrié par avion ou je sais pas comment, là-bas.
Est-ce que vous pensez que le fait effectivement de partager la manière dont on aimerait mourir avec ses proches faciliterait le deuil?
Totalement. Totalement. Et je crois que je cite une personne là, hein, qui je me rappelle en rendez-vous, qui était très très agitée parce que elle a eu des consignes quant au chant qui devait être, alors que bon, il y avait encore de la marge et que les deux, la mère et la fille, sont toujours en vie. Hein, enfin, il y a eu plusieurs cas et souvent dans mes exemples, enfin bon, je donne pas, enfin je, bref,
Oui, c'est très pratique, c'est-à-dire que c'est
ouais.
très empreint de la réalité.
Et en fait, depuis, c'est pour ça que j'ai mis l'exemple dans le bouquin, la personne m'a dit, mais en fait, ça y est, on est d'accord. Et en fait, elle m'a dit ça, je sais plus, il y a 5-6 ans, et c'est génial parce que tout est en place. Et ça n'empêchera pas la douleur du départ et de la séparation. Mais on peut y aller, ça épargne aussi la panique d'avoir à décider pour d'autres ou de laisser d'autres décider pour soi.
Alors, vous parlez des épreuves. La vie emprunte des chemins qui peuvent être tortueux. Vous vous êtes inspiré de la loi des cinq éléments pour décrire les cinq épreuves fondamentales de la vie. L'épreuve du feu, l'épreuve de la tombe, l'épreuve de l'épée, l'épreuve de la noyade, l'épreuve de la forêt. Je ne vais pas citer les éléments qui y sont associés, tout le monde aura compris. Vous avez vous-même traversé une épreuve difficile il y a un an. Dans quelle mesure cela a-t-il eu un impact dans l'écriture de ce livre?
Alors, en tout cas, par rapport au bouquin, le bouquin ne serait pas là si j'avais pas failli passer l'arme à gauche l'an dernier. Je venais de sortir Oser s'accomplir ou Oser s'incarner. Enfin, il y avait un contentieux parce que j'aurais voulu que Oser s'accomplir s'appelle Oser
C'est
s'incarner.
vrai.
Mais j'étais, enfin, je m'apprêtais à revenir plein pot aux consultations à ce moment-là. Donc, pour moi, ce livre, il m'est tombé du ciel à un des moments les plus noirs de ma vie. Parce que au plus, enfin, j'en parle un petit peu dans le bouquin, je ne veux pas déflorer, mais je pense que je dois ma survie à la responsabilité de transmission que j'ai acceptée à un moment donné où je me voyais partir. J'arrive à en rire hein, un petit peu, mais c'était. Du coup, alors bien évidemment, ce type d'épreuve, ça. Ça, enfin, moi, j'étais quand même déjà très, très, très simplement. Moi, je suis simplement heureuse depuis des années que le soleil se lève tous les jours. Pour moi, c'est incroyable, incroyable. Je me dis, il y a un jour, peut-être que le soleil, il se lèvera plus. Là, tous les jours, on peut avoir tous les problèmes qu'on a, mais tous les jours, il fait jour. C'est extraordinaire. Bon, je suis un peu spéciale, mais
Oui, parce que.
à quoi ça sert, en quoi est-ce que le fait que le soleil se lève, est-ce que ça va m'aider à retomber sur mes pieds alors que mon restaurant est fermé? Mais tant qu'il n'y a pas, ça veut dire que la vie continue.
Oui, vous dites d'ailleurs qu'on n'entre jamais dans une épreuve comme on en sort.
Ah, totalement, absolument.
Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis cette épreuve, effectivement, qui a été.
J'ai compris que je pense que comme beaucoup de thérapeutes ou d'accompagnants, j'ai compris la très grande urgence pour ceux et celles qui sont déjà debout, c'est-à-dire qui sont déjà en mode autonome, qui sont déjà capables d'accompagner les autres, la très grande urgence d'être au service d'une transformation sociale. Parce qu'on est à un changement d'air. On est à d'air à tous les on est à un changement d'air ERE. Hein, en tout cas, personnellement, je ne peux plus mettre mes forces au service de personnes qui finalement m'utiliseraient comme un paratonnerre ou un sparadrap. C'est-à-dire qu'ils vont se sentir mieux dans une consultation, mais qui le lendemain ne mettent rien en place. Donc, comme les médecins qui donnent une ordonnance et qui vont se rendre compte que la personne ne va pas faire les séances de kiné, par exemple, et qui revient en boitant et dit « ça va pas mieux, docteur hein? ». Parce qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il y a un changement de paradigme où on sort d'une période d'abord qui était assez pyramidale, hein, où on savait ce que la suite serait. Hein, on a fait tel diplôme, on va
Bien
avoir tel
sûr.
boulot. On vient de tel endroit, on n'ira pas à tel endroit, etc. Ce système, il s'écroule parce que c'est un système qui n'est pas suffisamment partageur. C'est un système qui ne permet pas une vitalité renforcée et élargie de tous ceux et celles qui contribuent. Qui sont debout, qui vont au collier tous les jours et à qui on ne dit jamais merci, hein, vers un système où enfin, je pense et je le vois d'ailleurs, hein, où le terreau social, qui a été très chahuté, est en train de. Il est travaillé et il y a un vrai appel d'air pour des initiatives plus individuelles qui vont en entraîner d'autres, qui vont devenir plus collaboratives pour que des régions redeviennent vivantes. Alors on a quand même vu ces 20 dernières, c'est beaucoup plus que ça, une concentration des talents dans les très grandes villes et une désertification des provinces, des campagnes. Maintenant, avec les moyens technologiques que l'on a, ça va s'inverser. Je pense que les villes sans arbres, avec trop de béton, etc., qui sont invivables, vont perdre. Enfin, on le voit déjà, hein, il y a de la population qui s'en va, au profit de nouveaux modes de faire, de nouveaux modes collaboratifs. Enfin, je ne veux pas m'éloigner trop de la question, hein, mais. Ce que j'ai compris par ma maladie, c'est que un, l'écriture est utile, que par mes ouvrages, je peux transmettre énormément d'outils à beaucoup de monde. Alors ceux qui ont envie de bouger, bien sûr, pas à tout le monde, c'est comme ça. Et je suis, en général, je suis là pour ceux et celles qui cherchent à se redresser.
Eh bien, merci Marie-Pierre.
Merci Amal. Merci à la vie.
Eh bien, je rappelle le titre de votre livre, Marie-Pierre. Je suis très émue. Debout, la force de s'incarner. Paru aux éditions, chez Mama Édition. Voilà. Merci beaucoup Marie-Pierre. Je me suis, moi, à titre personnel. Pardon. Reconnue dans votre livre. Voilà. J'ai eu le sentiment, voilà, pour moi, c'est un manuel de. Voilà, pour ceux qui est destiné à ceux qui.
Un manuel de quoi?
Ben, un manuel qui est destiné à ceux qui veulent rester dignes, hein. Malgré les aléas de la vie. C'est, mm-hmm. c'est, j'ai vu l'excellence, j'ai vu la dignité, j'ai vu la classe, j'ai vu plein de choses, en fait, j'ai vu la beauté. Voilà.
Et la beauté, elle est en chacun d'entre nous. Elle y est. Hein. Et donc, on se laisse limer, rogner. Aucun enfant n'arrive en noir et blanc. On est tous en couleur, on est tous en vie, on est tous en. Et puis après, au fur et à mesure de ce que des formatages que l'on rencontre, on va se retrouver soit part sur son chemin, des fois ce que je dirais en noir et blanc, c'est-à-dire il nous manque de la couleur. Enfin bon, c'est. Merci.
Merci Marie-Pierre. Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Je vous rappelle le titre du livre de Marie-Pierre Dillenzeger, Debout, la force de s'incarner, chez Mama Édition. De mon côté, je vous donne rendez-vous sur bloominyou.fr où vous trouverez la retranscription de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt !